Voilà pour le récit de la résurrection selon Matthieu. Vous savez qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'avoir quatre évangiles dans nos Bibles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et chacun des évangélistes a sa manière de raconter les choses, a sa spécificité, a son style, a son vocabulaire, ouais, a sa couleur. Et ce matin, j'aimerais dégager avec vous quelques spécificités de Matthieu avec un zoom sur le séisme et l'apparition de l'ange. Le séisme, il a attiré mon attention à la première lecture que j'ai faite de ce texte, probablement en lien avec les derniers événements de notre planète. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé, mais quand on voyait ces tremblements de terre, c'était vraiment, je me disais, mais c'est difficile de rester insensible à un tel phénomène. Comme on l'a entendu, deux femmes sont allées à la tombe pour voir. Dans l'évangile de Matthieu, pas d'allusion à un quelconque rite mortuaire. Elles ne vont pas avec des aromates, comme on le trouve par exemple chez Marc et Luc. Les deux copines, les deux maris, elles vont simplement au cimetière pour prendre congé de leur maître et ami Jésus pour commencer leur travail de deuil, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est là qu'arrivée à la tombe, la terre tremble. Et ce n'est pas seulement les femmes qui tremblent, c'est les gardes qui tremblent. Les femmes tremblent et la terre tremble. Fondamentalement, je crois que le message de la résurrection ébranle nos schémas de pensée les plus profonds, les plus archaïques en nous-mêmes. Tant il est plus facile de croire en la mort qu'en la vie. Tant le quotidien nous rappelle sans cesse le caractère inéluctable de la mort. Qu'à ouvrir un journal, qu'à écouter les actualités, qu'à regarder autour de nous, pour se rendre compte que tout vieillit, tout s'use, tout disparaît, et parfois tragiquement. C'est pourquoi nous accordons comme ça plus naturellement de crédit à la mort qu'à la vie. Et puis, plus théologiquement, cette spécificité du tremblement de terre paraissant uniquement sous la plume de Matthieu ne devrait pas tellement nous étonner de la part de cet évangéliste qui est le plus imbibé de l'Ancien Testament que les autres. Quelques versets auparavant, lorsque Jésus meurt en croix, un événement semblable se produit. La terre tremble, les tombeaux s'ouvrent, les rochers se fondent. Le tremblement de terre est un de ces symboles de la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament. Lorsque, par exemple, Dieu se manifeste à Moïse au mont Sinaï, la montagne tremble. Et là, apparaît l'ange. Et ce n'est pas la première fois qu'un ange apparaît. Au debout de la vie de Jésus, on pourrait dire comme aux deux naissances de la vie de Jésus, l'ange apparaît. Lors de sa naissance terrestre, l'ange apparaît à Joseph pour lui dire que sa fiancée est enceinte. Et là, lors de sa naissance céleste, l'ange apparaît. Et l'ange a deux actions comme ça qui méritent d'être relevées. D'abord, une parole. Ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. L'ange ne s'adresse pas aux gardes qui eux aussi tremblent de peur. Il s'adresse aux femmes qui sont là pour chercher Jésus. Et ceux et celles qui aujourd'hui encore cherchent Jésus, même s'ils ne comprennent pas tout, même s'ils tâtonnent dans la vie, même s'ils ont des doutes, n'ont pas à craindre et sont les bienvenus. Une recherche authentique du Seigneur est prometteuse de découvertes insoupçonnées. Une autre action de l'ange qui sera salutaire pour les femmes, c'est qu'il dégage la pierre. Mais il ne dégage pas la pierre pour laisser passer Jésus, comme on pourrait s'y attendre. Non, il ne roule pas la pierre pour laisser faire la résurrection. Il roule la pierre simplement pour montrer aux femmes que le tombeau est vide, inhabité, cela dit, voir le vide ne suffit pas. Il faudra encore que ce vide soit habité par la parole de Dieu pour accéder à la vie, pour accéder à la réalité, pour accéder à la foi. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Pas de visualisation du comment de la résurrection, pas de reportage, pas de caméra, mais une parole forte, convaincante, qui va rejoindre les femmes, celles qui sont venues pour chercher Jésus. Et les femmes, elles adhèrent à cette parole sans demande d'explication, mais les conséquences vont être immédiates et visibles, puisque leur peur va se transformer en joie et qu'elles ne vont pas rester statiques au cimetière, mais qu'elles vont faire demi-tour, se retourner, se convertir et aller dans le monde des vivants pour dire, prêcher, proclamer ce qu'elles viennent de vivre. Ceux qui, aujourd'hui, comme au temps de Jésus, comme à toutes les époques, s'interrogent du comment se passe la résurrection, le récit de Matthieu ne livre aucune information, pas plus que Marc, Luc, Jean et Paul. Dans tout le Nouveau Testament, aucun témoin n'a filmé en direct la résurrection, aucun auteur de la Bible ne donne une description détaillée du phénomène. Alors bien sûr que cette absence a dérangé, n'est pas passé inaperçu. Bien sûr que cet espace blanc a excité la curiosité et n'a pas tardé à être comblé, tant la nature a horreur du vide. Et pas eu besoin d'attendre le 21e siècle pour voir apparaître des tentatives d'explication du phénomène de la résurrection. Déjà un document assez proche des évangiles qui sont dans nos Bibles a vu le jour à la même période, qui est l'évangile de Pierre, un apocryphe, qui a tenté de reconstituer l'événement de la résurrection. Il s'agit évidemment d'une reconstitution imaginaire de l'acte résurrectionnel. Mais ceci pour dire que le vide volontairement laissé dans la Bible est appelé à être habité, comblé par la foi. Et non pas par une description technique de la résurrection. Que Jésus soit vivant et non couché dans la mort est une conviction accessible à la foi. Des passants, des soldats, d'autres condamnés ont assisté à la même scène, à la crucifixion. Il n'en va pas de même pour ce qui se passe 3 jours après. Croire en la résurrection n'est pas de l'ordre intellectuel. Et à notre besoin de savoir, le Seigneur nous répond par une offre de croire. Alors, croire, ce n'est pas une simple idée vague, à gober comme ça, toute crue, mais c'est faire confiance, c'est donner du crédit. C'est estimer que ce que Dieu dit et fait est digne de confiance, que c'est du solide, qu'on peut s'appuyer dessus. Et croire, me semble-t-il, n'est pas à opposer au savoir. Croire ne veut pas dire laisser son cerveau de côté, son intelligence. Pour moi, croire intègre le cerveau, l'intelligence, le savoir, la recherche, mais va plus loin et engage toute ma personne dans une relation. Par exemple, on peut savoir que Dieu nous aime. On peut même savoir que des personnes autour de nous nous aiment, mais ne pas le croire, ne pas l'expérimenter dans une relation. Et croire à l'amour de Dieu, croire à la résurrection, engage une relation faite de réciprocité avec le crucifié et le ressuscité. Et j'ai envie de dire que c'est en t'engageant dans une relation, en nous engageant dans une relation authentique, c'est-à-dire avec nos questions, avec nos doutes, que nous découvrirons ce qu'est vraiment la résurrection, que nous l'expérimenterons vraiment. Voilà pour le récit biblique selon Matthieu, je trouve vraiment magnifique dans sa singularité et qui nous rappelle que le message de la résurrection nous secoue. Une fois cette relation engagée et nouée avec Dieu, comment se manifeste la résurrection dans nos vies? Et pour ça, je vous propose juste un petit détour aux données bibliques. Vous savez peut-être que le Nouveau Testament n'utilise pas de termes techniques équivalents au mot français « ressusciter ». Il recourt à plusieurs verbes, dont deux qu'on trouve fréquemment et qu'on traduit par « réveiller » et « relever ». Le Christ se lève d'entre les morts ou à d'autres endroits, le Christ est réveillé de la mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces termes ne sont pas utilisés juste quand il y a quelqu'un qui est mort. Par exemple, lorsque Jésus guérit de sa fièvre la belle-mère de Simon, il la relève, il la ressuscite d'une certaine manière. Un homme au corps et à la vie paralysé se lève lorsque Jésus pardonne ses péchés, il le remet debout. Le combat pour la vie, le combat de Jésus pour la vie est déjà à l'œuvre dans le quotidien des gens qu'il rencontre. Ceci pour dire que la résurrection se manifeste déjà au cœur de nos vies. Et il y a environ une dizaine d'années, j'ai rencontré un homme qui, à mon sens, vraiment a fait cette expérience du relèvement du Christ. C'est un homme qui est marié, qui a des enfants, très engagé à la suite du Christ. Avec son épouse, ils sont partis même aux missions. Et après plusieurs années de travail dans le domaine médical, un malheur, un drame est arrivé dans leur famille puisqu'ils ont perdu un de leurs enfants. Et ça a été vraiment la gifle, la baffe, où ils ont été vraiment secoués, ébranlés de fond en comble. Et après vraiment un long chemin, pas une année, deux ans, après un long chemin, ce couple s'est relevé, ce couple a retrouvé goût à la vie, a même retrouvé la foi en Dieu, mais une foi pas celle qu'ils avaient juste avant, une foi épurée, une foi grandie, une foi qui avait vraiment maturé. Et aujourd'hui, encore quelque chose que j'ai oublié de dire, ce qui me frappe vraiment à chaque fois que je rencontre ce monsieur, je vois que les stigmates, que les marques de la blessure et de cet arrachement sont toujours bien présents, sont toujours là. Et ces marques témoignent de leur histoire. Et ce couple ne cherche même pas à se débarrasser de ces marques et de ces stigmates. Leur enfant aura toujours sa place dans leur famille, même s'il est absent. Aujourd'hui, ils servent le Christ ensemble, simplement dans leur profession de médecin, et ils témoignent d'une vie qui ne nie pas la souffrance et la mort. Et je peux vous dire, et je peux vraiment témoigner que j'ai beaucoup appris au travers de cette relation avec cette personne. J'ai appris qu'on ne peut parler honnêtement de la résurrection sans parler de la mort. Alors bien sûr qu'on le préférerait tant la mort nous horripile, tant la souffrance nous fait peur. Pourtant, on ne peut parler de la résurrection sans parler de la mort. Pour le Christ, lorsque l'ange parle aux femmes, qu'est-ce qu'il leur dit ? Je sais que vous cherchez Jésus, pas le ressuscité, mais le crucifié. Si à nous, on nous avait demandé de peindre Jésus, vainqueur de la mort, ressuscité, l'aurions-nous peint avec les stigmates, avec les marques de ses clous ? Et quand Jésus se présente à Thomas, que lui dira-t-il ? Avance ton doigt et regarde les marques. Enfonce ta main dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Merci, Thomas, pour ton incrédulité. Que ça nous plaise ou non, mort et résurrection sont les deux faces d'une même pièce. La résurrection, c'est vrai, c'est notre avenir ultime, notre destination finale, en même temps qu'elle est déjà accessible par la foi. Et pour moi, la foi est un apprentissage. Un apprentissage qui commence ici et maintenant, et que je suis sûre que beaucoup, si ce n'est tous, font. La vie, me semble, nous donne assez de matériel, assez d'occasions pour faire cet apprentissage. Par exemple, lorsque l'avenir paraît sombre, encombré d'obstacles, par exemple au niveau professionnel, le Seigneur nous rappelle qu'il est celui qui crée un passage vers la vie. Ou lorsque l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes parents, de mes proches est confus ou est même désespéré, le Seigneur nous rappelle qu'il a vaincu ce qui semblait invincible, la mort. Ou bien encore quand la maladie ou la mort me frappe, m'agresse en plein cœur, le Seigneur me redit que tout cela n'est pas le point final de la vie. Et Maurice Zundel le dit à sa manière. Ah mince, ouais. Tous les chemins sont à certaines heures des chemins de croix, mais la résurrection y trace des lignes de force qui annoncent le triomphe de la vie. Pour conclure, je dirais que Pâques n'est pas seulement la fête d'un jour, mais un rendez-vous de chaque jour, alors bien plus facile à dire qu'à vivre, dont nous ressemblons étrangement aux œufs de Pâques. Notre confiance en Jésus semble un jour aussi solide et dure qu'une coquille d'œuf, mais un autre, un rien ne suffit à la briser. Croire en la résurrection de Jésus, comme je l'ai dit, n'est pas un acquis, un savoir dont je pourrais me passer une fois l'examen réussi. Ça me semble ressembler davantage à un apprentissage de vie qui a déjà commencé ici sur terre et qui se terminera après ma mort. C'est pourquoi, par exemple, se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus pendant la scène, chaque dimanche, ça me ramène chaque fois à cet apprentissage. Et ce que j'apprends concrètement, c'est que ma vie, elle est cachée dans celle du Christ. Et que la mort, sous toutes ses formes, quand elle me frappe, eh bien, je ne suis pas abandonnée à ma solitude, à ma colère, à mon désespoir et à la peur. Celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie, même s'il meurt, vivra, m'accompagne. » Il m'accompagne, il nous accompagne dans la souffrance et la mort, parce que la résurrection n'escamote pas nos souffrances. Le Christ ne s'excuse pas d'avoir été homme. Il rejoint le Père avec les marques de son humanité. Ce qui implique que nous expérimentons bien des délivrances, des guérisons, des résurrections, mais que nos vies ne sont pas vierges de toute trace. Finalement, lorsque les femmes quittent le tombeau vide, c'est Jésus en personne qui vient à leur rencontre. Au moment où les femmes s'y attendent peut-être le moins, Jésus vient à leur rencontre et elles le voient, c'est-à-dire qu'elles le reconnaissent. Une rencontre qui aboutit à l'adoration de celui qu'elles n'ont jamais cessé d'aimer. Un geste spontané, sans réflexion, auquel je nous invite ce matin, maintenant, sont retenus. Amen.